que estava dia.
Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 15h.
Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs.
Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Mais d'abord, c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Une jubilation du mot rime, une joie de la syllabe, fait une espèce de dégustation charmante des vocables.
Tete fabula narratur. Aujourd'hui sont présents Justin, Estelle, Victor, Thibaut et moi-même Nicolas. Bonjour et bienvenue à DT Fabula Narratur, ceci est ton histoire, votre émission de collage littéraire. Après une bonne semaine de digestion et d'essais de recettes manquées, nous remettons le couvert une dernière fois sur notre thème pour aborder aujourd'hui le thème de la faim sociale. La faim génère et dégénère. Nous allons voir aujourd'hui comment la faim entretient des rapports avec la société. La faim génère et dégénère. Nous allons voir aujourd'hui comment la faim entretient des rapports avec la société, avec ses citoyens. Quand tout cela dégénère de la faim, est-ce la société qui en pâtit ou bien les citoyens qui perdent leurs moyens? Est-ce la société qui crée ces mots ou eux qui ne sont que des causes de ce qu'est la société? Ces questions traverseront nos lectures comme les lecteurs nous traversent par leur courrier. Nous en avons reçu deux cette semaine. Et un premier courrier de notre épistolier Trolski. Pas très content cette semaine. Trolski dit « En découvrant une émission de collège littéraire en plein samedi après-midi sur le seul créneau horaire où les honnêtes travailleurs peuvent aller faire leurs courses à Cora, je pensais que nous avions déjà poussé trop loin le mépris de classe. Je me trompais. Voilà que vous avez choisi de vous en prendre à l'un des derniers refuges où les prolétaires peuvent se ragaillardir contre un ordre capitaliste inique, la bouffe. Vous avez l'audace de fanfaronner en introduction que l'abjection de la faim se situerait peut-être dans son économie sociale, pour entamer aussitôt une énumération arrogante de tous les caprices goinfres que peuvent s'octroyer ceux qui vivent du travail des autres. Il est peu probable que beaucoup de peintres en bâtiment écoutent Radio Campus un samedi après-midi. Grand bien leur en fasse, leur aversion pour les choses de la tête les préserve sans doute de votre violence symbolique. Et que dire des étudiants prostrés dans leur chambre universitaire, ceux qui ne s'accordent qu'un repas par jour, ceux auxquels les programmes de campus sont censés s'adresser. Et vous, vous figurez sans doute rendre grâce à la bonne popote populaire. Vous n'en donnez pourtant que des images surannées. Où sont les kefta harissa sauce blanche et les pizzas surgelées sur lesquelles on rajoute du gruyère avant de les mettre au four? On se le demande. En vérité, votre condescendance accroche aux narines bien davantage que le mélange d'huile de friture, de gaz d'échappement et de sueur du travailleur que l'on retrouve dans les baraques à frites. Pour finir, n'imaginez pas un instant pouvoir tirer satisfaction de m'avoir mis hors de mes gonds, car je vous livre cette diatribe dans le plus grand des calmes. Traquer la haine de classe partout où elle se niche n'est pour moi ni plus ni moins qu'une scène gymnastique de tous les jours. En attendant d'avoir encore affaire à vous, je vous laisse retourner à vos sushis de bourgeois, aigrement, El Trolski. Voilà, donc on en a pris pour notre grade. Et un deuxième courrier qui commence ainsi. Salut la compagnie, votre émission a réchauffé le cœur d'un vieux briscard cuisiné de métier. Ah, le ton a changé, hein, vous notez. Quel plaisir d'entendre de jeunes amoureux de la graille. vous relevez le niveau de votre génération parce que franchement, c'est à désespérer. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à une réception où on m'a proposé du gratin de chips. Je ne vous mens pas, de ces infectes chips en triangle qui ont la texture des croquettes pour chat. Le tout passé au four, comme si ce n'était pas assez sec. Vous, en revanche, je m'inviterai presque chez vous à l'improviste. Vous cuisinez vraiment tout ça ? Ou je n'ai peut-être pas bien compris le principe de l'émission ? Je n'ai qu'un regret que je ne peux pas garder pour moi. Je n'ai, pour ainsi dire, pas entendu parler de fromage. Pourtant, le fromage, c'est le point d'équilibre parfait entre le raffinement et la gloutonnerie, comme disait Dali. Ou non, attendez, c'est peut-être ma mère. Allez, bon courage pour la prochaine, les fistons, et pensez au frometon. N'hésitez pas à passer au magasin un de ces jours, signé Giuseppe Di Parmigiano. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine.
Encore un sacré courrier de Trotsky.
Oui, quel joyeux verre, camarade.
On a une petite réponse à faire pour un petit peu expliciter la référence à Dali. Voilà ce que dit Dali.
Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres molles parce que j'étais mystique. Alors, ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles ? Et j'ai répondu, parce que les montres molles sont comme du fromage et surtout comme le camembert quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il y a la tendance de commencer à dégouliner. Et on a dit, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme ? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Dernièrement, des jésuites.
Mon père avait plus de force que moi. Il venait de la campagne, lui.
Celui qui me parlait ainsi, un jeune garçon aux yeux malins de l'East End, se lamentait sur son manque de développement physique.
Regardez mes bras, comme ils sont maigres,
continua-t-il en retroussant ses manches.
Pas assez à manger, c'est de là que ça vient. Oh, pas maintenant, parce qu'aujourd'hui, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Mais c'est trop tard, je ne peux pas rattraper tout ce que je n'ai pas eu quand j'étais môme. Mon père est venu à Londres, du pays de Fen. Ma mère est morte, et nous avons vécu tous les sept, mon père et les six autres gosses, dans deux petites pièces. Oh, il n'a pas eu la vie facile, mon père. Il aurait pu nous plaquer tous, mais il a préféré travailler comme un esclave toute la journée et revenir le soir pour nous faire la cuisine et s'occuper de nous. C'était à la fois notre père et notre mère. Il faisait de son mieux, mais nous n'avions pas assez à manger. On n'avait presque jamais de viande, et quand on en avait, c'était toujours les plus bas morceaux. C'est pas bon pour des gosses de se mettre à table et de n'avoir à manger qu'un croûton de pain et du fromage. Et encore, il n'y en avait pas beaucoup. Et voilà le résultat. Je suis trop petit pour mon âge et je n'ai pas la force de mon père. Je ne sais pas où c'est parti tout ça, mais je crois bien que, dans deux ou trois générations, il ne restera plus rien de moi ici, à Londres. Prenez le cas de mon plus jeune frère. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que moi. C'est parce qu'on a continué à vivre ensemble tous les sept, pas la peine de chercher ailleurs.
Mais je ne comprends pas. J'avais pensé qu'au contraire, sous de telles conditions, la vitalité décroissait au fur et à mesure et que les plus jeunes enfants étaient aussi les plus faibles.
Pas quand on grandit ensemble. Allez donc vous balader dans l'East End. Si vous voyez un gosse de 8 à 12 ans, de taille normale et en bonne santé, vous pouvez être certain que c'est le plus jeune d'une famille, ou tout au moins, l'un des plus jeunes. Voilà comment ça se passe. Les aînés souffrent beaucoup plus de la faim que ceux qui viennent après. Quand les plus jeunes naissent, les aînés sont déjà au boulot, et comme il y a encore plus grande quantité d'argent qui rentre à la maison, il y a aussi bien plus à manger.
Il redescendit ses manches. Ses bras étaient un exemple concret du fait que si la famine ne tue pas, elle diminue l'homme. La plainte de ce jeune homme n'était que l'écho de millions d'autres, qui crient leur faim dans le plus grand empire du monde. Un comité du conseil des écoles du district de Londres a récemment déclaré « Actuellement, et nous ne sommes pas spécialement dans une période de détresse, il y a dans les écoles de Londres seulement 55 000 enfants qui ne mangent pas à leur faim et à qui il est parfaitement inutile de donner un enseignement qu'ils ne sont pas à même de recevoir. Les italiques sont de moi. Pas spécialement dans une période de détresse. Signifie que tout va bien en Angleterre. En effet, les Anglais ont pris l'habitude de considérer la famine et la souffrance, qu'ils appellent pudiquement la détresse, comme faisant partie de l'ordre social. La famine chronique et chez eux en état de fait. Et c'est seulement lorsque la famine aiguë fait son apparition que l'on commence à penser que quelque chose ne tourne pas rond. Ce ne sont pas seulement les habitants du ghetto, les prisonniers et les pauvres qui ont faim. Jacques Bonhomme, dans sa campagne, ne connaît pas lui non plus la sensation du ventre plein, et c'est souvent son estomac vide qui lui a suggéré de venir à la ville. De toutes parts dans le pays, le cri des affamés s'élève, du ghetto, de la campagne, de la prison, des hospices et des asiles, le cri des gens qui ne mangent pas à leur faim. Des millions et des millions de gens, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des aveugles et des sourds, des estropiés et des malades, des vagabonds et des travailleurs, des prisonniers et des pauvres, des Irlandais, des Anglais, des Écossais et des Gallois, tous hurlent qu'ils n'ont pas assez à manger. 5 hommes seulement peuvent produire le pain d'un millier. Qui donc oserait prétendre que cette grande maison n'est pas criminellement gérée, alors que 5 hommes produisent le pain de 1000 autres et que des millions n'ont même pas de quoi manger.
Gnaton ? Mec, le son. Gnaton ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'il n'était point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle des 2 autres. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'ait achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous, tout à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu'il faut que les convives, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin, dans un autre plat et sur la nappe. On le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit. Il roule les yeux en mangeant. La table est pour lui un râtelier. Il écure ses dents et il continue à manger. Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière d'établissement et ne souffre pas d'être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent. Dans tout autre, si l'on veut l'en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S'il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries et il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre, le meilleur lit. Il tourne tout à son usage. Ses valets, ceux d'autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout ce qu'il trouve sous sa main lui est propre, hard, équipage, il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa réplession et sa bile, ne pleure point les autres, ne pleure point la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain.
On l'appelait Mangeclou parce que, prétendait-il avec le sourire sardonique qui lui était coutumier, il avait eu en son enfance dévoré une 12aine de vis pour calmer son inexorable faim. Une profonde rigole médiane traversait son crâne hâlé et chauve auquel elle donnait l'aspect d'une selle. Il déposait dans cette dépression divers objets tels que cigarettes ou crayons.
C'est une triste chose pour ceux qui se promènent dans cette grande ville ou voyagent dans la campagne que de voir les rues, les routes et les portes des cabanes encombrées de mendiantes que suivent 3, 4 ou 6 enfants, tous en haillons et importunant chaque passant pour avoir l'aumône. Ces mères, au lieu d'être en état de travailler pour gagner honnêtement leur vie, sont forcées de passer tout leur temps à mendier de quoi nourrir leurs malheureux enfants, qui lorsqu'ils grandissent, deviennent voleurs faute d'ouvrage, ou quittent leur cher pays natal pour s'enrôler au service du prétendant en Espagne ou se vendent aux Barbades. Tous les partis tombent d'accord, je pense, que ce nombre prodigieux d'enfants sur les bras, sur le dos ou sur les talons de leur mère et souvent de leur père, est dans le déplorable état de ce royaume un très grand fardeau de plus. Lorsque les enfants sont âgés d'un an, je propose de prendre à leur égard des mesures telles qu'au lieu d'être une charge pour leurs parents ou pour la paroisse, ou de manquer d'aliments et de vêtements le reste de leur vie, ils contribuent, au contraire, à nourrir et en partie à vitir des milliers de personnes. Un autre grand avantage de mon projet, c'est qu'il préviendra ces avortements volontaires et cette horrible habitude qu'ont les femmes de tuer leurs bâtards, habitude trop commune hélas parmi nous. Ces sacrifices de pauvres petits innocents, pour éviter la dépense plutôt que la honte, je soupçonne, qui arracheraient des larmes de compassion au cœur le plus inhumain, le plus barbare. Je proposerai donc humblement mes propres idées, qui, je l'espère, ne soulèveront pas la moindre objection. Un jeune Américain de ma connaissance, homme très entendu, m'a certifié à Londres qu'un jeune enfant bien sain, bien nourri, est à l'âge d'un an un aliment délicieux, très nourrissant et très sain, bouilli, rôti, à l'étuvée ou au four, et je ne mets pas en doute qu'il puisse également servir en fricassé ou en ragoût. J'expose donc humblement, à la considération du public, que des 120 000 enfants dont le calcul a été fait, 20 000 peuvent être réservés pour la reproduction de l'espèce, dont seulement un quart de mâle, ce qui est plus qu'on ne réserve pour les moutons, le gros bétail et les porcs. Et ma raison est que ces enfants sont rarement le fruit du mariage, circonstance à laquelle nos sauvages font peu d'attention. C'est pourquoi un mâle suffira au service de 4 femelles, que les 100 000 restants peuvent à l'âge d'un an être offerts en vente aux personnes de qualité et de fortune dans tout le royaume, en avertissant toujours la mère de les allaiter copieusement dans le dernier mois, de façon à les rendre dodus et gras pour une bonne table. Un enfant fera 2 plats dans un repas d'amis, et quand la famille dîne seule, le train de devant ou de derrière fera un plat raisonnable, et assaisonné avec un peu de poivre et de sel, sera très bon bouilli le 4e jour, spécialement en hiver. J'ai fait le calcul qu'en moyenne, un enfant qui vient de naître pèse 20 livres, et que dans l'année solaire, s'il est passablement nourri, il ira à 28. J'accorde que cet aliment sera un peu cher, et par conséquent, il conviendra très bien aux propriétaires, qui, puisqu'ils ont déjà dévoré la plupart des pères, paraissent avoir le plus de droits sur les enfants. La chair des enfants sera de saison toute l'année, mais plus abondante en mars et un peu avant et après. Car il est dit par un grave auteur, éminent médecin français, que le poisson étant une nourriture prolifique, il n'est plus d'enfants dans les pays catholiques romains environ 9 mois après le carême qu'à toute autre époque. C'est pourquoi, en comptant une année après le carême, les marchés seront mieux fournis encore que d'habitude, parce que le nombre des enfants papistes est au moins de 3 contre 1 dans ce royaume. Cela aura donc un autre avantage, celui de diminuer le nombre de papistes parmi nous. Je crois qu'aucun gentleman ne se plaindra de donner 10 shillings pour le corps d'un enfant bien gras, qui, comme j'ai dit, fera 4 plats d'excellente viande nutritive, lorsqu'il n'aura que quelques amis particuliers ou son propre ménage à dîner avec lui. Quant à notre cité de Dublin, des abattoirs peuvent être affectés à cet emploi dans les endroits les plus convenables, et les bouchers ne manqueront pas assurément. Toutefois, je recommande d'acheter de préférence des enfants vivants et de les préparer tout chaud sortant du couteau, comme nous faisons pour les porcs à rôtir. Cet aliment amènera aussi beaucoup de consommateurs aux tavernes, où les cabaretiers seront certainement à la précaution de se procurer les meilleures recettes pour l'accommoder dans la perfection, et conséquemment, auront leur maison fréquentée par tous les beaux messieurs qui s'estiment fort justement en raison de leur connaissance en cuisine, et un cuisinier habile, qui sait comment on engage ses hôtes, saura bien rendre celle-ci coûteuse, aussi coûteuse qu'il leur plaira. On pourrait énumérer bien d'autres avantages, par exemple, l'addition de plusieurs milliers d'animaux à notre exportation de bœuf en baril, l'inconsommation plus abondante de la chair de porc, et un perfectionnement dans la manière de faire du bon lard, dont nous manquons si fort, par suite de la grande destruction des cochons de lait, qui se servent trop souvent sur notre table, et qui ne sont nullement comparables comme goût et comme magnificence à un enfant d'un an, gras et d'une belle venue, qui rôti tout entier fera une figure considérable à un repas de lord de mer ou à tout autre festin public. Mais cela et beaucoup d'autres choses, je n'en parle pas, tenant à être bref.
But how does he live on 8 shillings a week? 8 shillings a week, 8 shillings a week. But how does he live on 8 shillings a week? So now to conclude and to finish my song, may the times be much better before it's too long. May every labourer be able to keep
his children and wife on 12 shillings a week.
Quand Franz vient appeler Washman pour aller chercher la soupe, c'est qu'il est 11h. La matinée est presque terminée et nul ne se soucie de l'après-midi. Ensuite, c'est le retour de la corvée, à 11h30, avec l'interrogatoire d'usage. Combien de soupe aujourd'hui? Comment est-elle? Du dessous ou du fond du baquet? Moi, je m'efforce de ne pas les poser, ces questions-là. Mais je ne peux m'empêcher de tendre l'oreille aux réponses et le nez à la fumée que le vent emporte des cuisines. Enfin, telle une météore céleste, surhumaine et impersonnelle comme un avertissement divin, retentit la sirène de midi, qui vient mettre un terme à nos fatigues et à nos faims, anonymes et uniformes. Et de nouveau, la routine. Nous accourons tous à la baraque, et nous nous mettons en rang, gamelles tendues. Et nous mourons tous de l'envie animale de sentir le liquide chaud au plus profond de nos viscères. Mais personne ne veut être le premier, parce que le premier a pour l'eau la ration la plus liquide. Comme d'habitude, le capot nous couvre de railleries et d'insultes pour notre voracité, et se garde bien de remuer le contenu de la marmite puisque le fond lui revient d'office. Puis vient la béatitude, positive celle-là, et viscérale, de la détente et de la chaleur dans notre ventre, et tout autour de nous, dans la cabane où le poêle ronfle. Les fumeurs, avec des gestes avares et pieux, roulent une maigre cigarette, et de tous nos habits, trempés de boue et de neige, s'élève à la chaleur du poêle une épaisse buée qui sent le chenil et le troupeau. Aujourd'hui est une bonne journée. Mais ce n'est pas seulement à cause du soleil qu'aujourd'hui est un jour heureux. Il y a une surprise pour nous à midi. En plus de l'ordinaire du matin, nous trouvons dans la baraque une merveilleuse marmite de 50 litres, presque pleine, qui arrive tout droit des cuisines de l'usine. Templer nous lance un regard de triomphe. Cette trouvaille est son œuvre. Templer est l'organisateur officiel de notre commando. Il a pour la soupe des civils cette sensibilité toute particulière qu'ont les abeilles pour les fleurs. Notre capot, qui n'est pas un mauvais capot, lui laisse carte blanche. Et il s'en trouve bien, tel un limier. Templer suit au départ une piste imperceptible et revient immanquablement avec quelques nouvelles précieuses. Ce sont les ouvriers polonais du méthanol, à 2 kilomètres de là, qui ont laissé 40 litres de soupe parce qu'elle avait un goût de rance. Ou bien c'est un wagon de navet qui est resté abandonné sans surveillance sur la voie de garage des cuisines de l'usine. Aujourd'hui, il y a 50 litres à partager. Nous sommes 15. Capot et Vorarbeiter compris. Ça nous fait 3 litres chacun. 1 litre à midi en plus de l'ordinaire. Et pour les deux autres, on ira à la baraque à tour de rôle dans l'après-midi. Et on bénéficiera exceptionnellement de 5 minutes de pause pour faire le plein. Que désirer de plus? Avec la surprise des 2 litres épais et chauds qui nous attendent dans la baraque, même le travail nous paraît léger. À intervalles réguliers, le capot s'approche de nous et demande « Vers At Nord, sous Fressen ?» Et s'il emploie ce terme-là, ce n'est pas par dérision ou sarcasme, mais parce que notre façon de manger, debout, goulûment, en nous brûlant la bouche et la gorge, sans prendre le temps de respirer, c'est bien celle des animaux, qu'on désigne par Fressen, par opposition à Essen, qui s'applique aux hommes. Au repas pris autour d'une table, religieusement. Fressen est le mot propre, celui que nous employons couramment entre nous. Meister Nogala, qui assiste à la scène, ferme les yeux sur nos courtes absences. Meister Nogala a l'air d'avoir faim lui aussi. Et n'étaient les conventions sociales, peut-être ne refuserait-il pas 1 litre de notre soupe chaude. Arrive le tour de Templer, à qui ont été décernés à l'unanimité 5 litres prélevés sur le fond de la marmite. Car Templer n'est pas seulement un fameux débrouillard, c'est aussi un exceptionnel mangeur de soupe, capable, performance unique, de vider ses intestins sur commande en perspective d'un repas copieux, accroissant ainsi son étonnante capacité gastrique. Ce don, connu de tous et même de Meister Nogala, le rend plus d'un juste orgueil. Accompagné de la gratitude générale, Templer, notre bienfaiseur à tous, se retire quelques instants dans les latrines, en ressort frais et dispo, et s'en va sous les regards bienveillants jouir du fruit de son ouvrage. Nun, Templer, hast du Platz genug für die Suppe gemacht ? Au coucher du soleil, la sirène du Feierabend retentit, annonçant la fin du travail, et comme nous sommes rassasiés, pour quelques heures du moins, personne ne se dispute. Nous nous sentons tous dans d'excellentes dispositions. Le capot lui-même hésite à nous frapper, et nous sommes alors capables de penser à nos mères et à nos femmes, ce qui d'ordinaire ne nous arrive jamais. Pendant quelques heures, nous pouvons être malheureux à la manière des hommes libres.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106.6.
Messieurs, nous ne sommes pas ici pour faire une orgie crapuleuse. Adorément avec pain grillé et couche de caviar d'esturgeon. Le bord du plat étant garni de poules d'olive, de tranches de citron et de cèdre et de sucre. Intermède. Quatre plates de figues sèches frites, des quartiers d'orange et saupoudrées de sucre. Et à paraître avec cœur.
C'est une question de volonté. Pense que tu es un Indien, à Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Et que tu as très faim. Si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges.
Vous êtes grotesque, grotesque et dégoûtant. Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim? C'est pas possible, c'est pas de la faim.
Le marron, c'est un de mes vices.
C'est un vice solitaire. Moi, je déteste ça.
À toi, l'honneur. On va le couper.
Comment tu veux couper ça? On peut pas faire des parts. C'est trop gros, ce truc-là.
Poème, ça.
Mais il est trop gros ton poème.
Écoute, avec la fourchette.
C'est de la merde.
Non, tu es pas sincère.
C'est un poème de merde, ça.
Pourquoi tu mets des rondelles d'œufs?
Parce que les œufs, selon les juifs, sont le symbole de la mort.
Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture. Il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie et qui est faite pour régenter la vie. Avant d'en revenir à la culture, je considère que le monde a faim et qu'il ne se soucie pas de la culture, et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la fin. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci du mieux vivre et d'avoir faim, que d'extraire de ce que l'on appelle la culture des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Nous avons surtout besoin de vivre, et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre. Et ce qui sort du dedans mystérieux de nous-mêmes ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif. Je veux dire que s'il nous importe à tous de manger tout de suite, il nous importe encore plus de ne pas gaspiller dans l'unique souci de manger tout de suite notre simple force d'avoir faim. Si le signe de l'époque est la confusion, Je vois à la base de cette confusion une rupture entre les choses et les paroles, les idées, les signes qui en sont les représentations. Ce ne sont certes pas les systèmes à penser qui manquent. Leur nombre et leurs contradictions caractérisent notre vieille culture européenne et française. Mais où voit-on que la vie, notre vie, ait jamais été affectée par ces systèmes ?
Vous étiez aujourd'hui avec Jack London, La Bruyère, Albert Cohen, Jonathan Swift, Primo Levi et enfin Antonin Artaud. Et tout de suite, un morceau de Chinese Man. Broken glass everywhere. People dancing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, brothers in the back. Junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a torch will possess my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a trouble sometimes, it makes me wonder how I keep from going underhead. Standing on the front seat, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze blows. Dans un petit plat à pain, bien que tu sentes le dessin, t'as pas le pain, t'es la coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Hey. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Pâtisserie, empoisonnée. La belle pâte à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collector, they ring my phone. Scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane.
La chronique aléatoire.
Attention, la rédaction tient à signaler
que les propos qui vont suivre n'engagent que le calendrier.
Chers auditeurs, chères auditrices, chers chiens, chats et autres mollusques, laissez-vous entraîner par l'histoire qui va suivre. Fermez les yeux, détendez-vous. Et imaginez le 31 décembre 2016. Vous êtes en plein réveillon. Vous passez un bon moment entre vos amis et votre alcoolémie. L'heure fatidique de minuit approche. Vous mettez un chapeau en carton sur votre tête, un sifflet dans votre bouche et vous allumez France 2 pour pouvoir faire le décompte avec Patrick Sébastien. Vous avez déjà dansé Trois Chenilles, Deux Lacs du Connemara, et voilà que le Daft Punk de votre chaîne IFI se mêle aux sardines de votre téléviseur. Ça y est, ça commence.
10.
Vous repensez à cette année passée.
9.
À tous les malheurs qu'elle a pu amener.
8.
Mais cela est enfin terminé.
7.
Car vous savez ce qui est en train d'arriver.
6.
Plus que la fin de 2016, c'est le début d'une ère nouvelle.
5.
Vous l'aviez écrit sur Twitter.
4.
Vous l'aviez tagué en bas de votre immeuble.
3.
Vous l'aviez scandé en sortant des bars.
2.
C'est le moment.
1.
Silence. Tout le monde se regarde. Vous êtes anxieux. Patrick Sébastien a arrêté de chanter. Le compteur reste immobile. Oui, vous l'avez fait. 2017 n'a pas eu lieu. Explosion de joie, vous vous embrassez tous. À part René, qui avait mis un mois à trouver son SMS de bonne année, 2017, année de la vidéocassette. Vous exultez, vous sortez dans la rue, et vous voyez quelque chose d'incroyable. Tout le monde a quitté sa petite soirée pour embrasser son voisin. D'une Mercedes, un homme en costume trois pièces jette des contrats de travail en CDI à 3 heures par semaine pour les plus démunis. René vous rappelle à l'intérieur. « Viens voir, c'est incroyable !» vous dit-il. Vous rentrez. Il vous montre France 2 toujours allumé. C'est un flash spécial. Tous les candidats à la présidentielle se sont retirés et ont fait une déclaration commune pour s'excuser des années où ils ont déçu certains citoyens, ajoutant que la création de communes autogérées était en marche. Trop d'émotions d'un coup. Vous vous rapprochez du buffet et vous prenez une énième coupe de mousseux à 2 euros amenée par René qui est fameux d'après lui. Vers 10h30 au 31 décembre 2016 bis, la fête se termine. Vous décidez d'une prochaine date où retrouver vos amis. Le 31 décembre 2016, Novo Décies est retenu par tous, sauf par René qui a un festival de tuning ce jour-là. Le 31 décembre 2016 Sexies, vous reprenez le travail. Vous apprenez que le patron a augmenté tous les salariés et a baissé son salaire au SMIC afin que la paye soit égale au travail fourni. De toute façon, un SMIC permettant maintenant de manger du homard tous les jours et de vivre en plein cœur de Paris pendant un an, ce changement n'a que peu d'importance. Partout dans le monde, l'économie est en plein boom. La plupart des associations humanitaires annoncent leur fermeture prochaine car elles sont devenues inutiles dans ce nouveau monde. Donald Trump a annoncé la construction d'une autoroute entre le Mexique et les États-Unis payée de sa poche. Kim Jong-un a révélé que les recherches atomiques de la Corée du Nord n'étaient en fait que des préparatifs pour le plus grand feu d'artifice du monde, censé amener joie et réconciliation entre les deux Corées. Églantine, votre amour de jeunesse, vous a retrouvé sur Copain d'Avant et vous commencez à préparer votre voyage de noces au jardin suspendu de Babylone, récemment rénové, avant de passer quelques semaines au Burundi, devenu le pôle économique le plus florissant en quelques mois, et perdant ainsi son titre de pays le plus pauvre du monde, maintenant détenu par la Suisse. Le 31 décembre 2016, non un gentillesse, vous fêtez les 3 ans de vos quintuplés. Ayant 35 ans depuis 734 jours, vous avez pu prendre votre retraite et avez tout le temps de vous occuper de vos bambins, qui lisent déjà du Nietzsche pour s'endormir et passent leur après-midi à taguer sur les murs, prévus à cet effet et mis à disposition par la commune. Vous versez une larme en vous rappelant du temps où l'on faisait des pancartes entre SRAB, comme il était coutume de désigner ses amis proches à l'époque, afin d'y mettre des slogans de manifestations. Malheureusement, les manifestations ont disparu. Elles sont devenues inutiles, puisque la démocratie directe permet au peuple de faire entendre sa voix. Enfin, au peuple moins René, qui, comme toutes les personnes présentes au festival de tuning ou celles écoutant du Djoul, a été condamné à l'exil dans un souci de paix sociale. Vous regardez votre vie et faites le triste constat qu'elle est parfaite. Vous êtes riche, comme tout le monde. Vous vivez une relation épanouie, avez de magnifiques enfants. Vous avez tout le temps du monde pour faire ce qu'il vous plaît et vous voyez vos amis autour d'un verre dès que vous le souhaitez. Seulement, vous n'avez rien dont vous plaindre. Pas un coup de gueule à poster sur votre blog. Pas la moindre protestation venant de vos voisins quand vous faites autant de bruit que l'aéroport Charles de Gaulle à 4h du mat.
Vous vous surprenez à relire le programme de Marine Le Pen, que vous cachez bien à l'abri dans votre coffre-fort, pour pouvoir critiquer son propos. Vous vous morfondez, et vous tomberiez bientôt dans une profonde dépression si la sécurité sociale n'était pas devenue si efficace. Alors vous faites l'impensable. Vous montez dans votre grenier, sortez un vieux carton poussiéreux, et là vous le voyez, l'objet qui pourrait mettre fin à tous vos problèmes. Vous le prenez, et son toucher est un soulagement. Vous le regardez. Il est bleu, avec au milieu une photo de chat qui pousse une brouette. Le calendrier de la Poste 2017. Vous le serrez contre vous et vous comptez chaque jour, un par un. Vous vous rendez alors compte que vous êtes en 2025. Et vous réalisez avec horreur que 2017 a bien eu lieu.
Bien, merci Victor. Il va être temps maintenant de passer au tirage au sort pour la semaine prochaine. Ça va être Justin qui va s'y coller.
Oui, donc cette semaine, c'était date d'histoire optimiste.
Oui, très très optimiste.
Excellent, excellent.
Donc tirage au sort.
Oui, alors, on n'a pas nos dés aujourd'hui.
J'imite le bruit des dés.
C'est ça,
une escroquerie cette émission.
8, horoscope. On s'y croirait presque. Rimé.
Je devrais être bruiteur.
Exactement.
Horoscope donc, rimé.
Horoscope rimé.
Très bien, j'y réfléchis déjà.
D'accord, et maintenant on va écouter Polo and Pan, et vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6.
Thank you.
un mot du professeur Olibrius.
Salut à vous, chère fripouille. Sa personnalité est si complexe que chacun peut repartir d'une même entrevue avec lui avec une impression différente. C'est ce que disait Gabriel Garcia Marquez, mon compère Gabi, de son autre compère Fidel Castro. Vous l'aurez appris, le barbu de la Havane nous a quittés. 9 jours de deuil à Cuba. Le nombre des journées de deuil doit être proportionnel au nombre d'années de pouvoir, me disait ce matin un ami philosophe. Rappelons tout de même, à notre mémoire, hein, celui qui a tenu tête à l'impérialisme américain et chassé ce pantin de Batista. Mais avant que vous ne me réprimandiez, je sais hein, que nous sommes ici là, pour parler de littérature, alors voilà, pour coller à l'actualité, j'ai retrouvé la trace d'un nouvel infréquentable des lettres, et bien sûr, il est cubain. Ernesto Pérez Masson. Romancier réaliste, naturaliste, expressionniste, adepte du décadentisme et du réalisme socialiste, auteur d'une 20aine d'œuvres attestant d'une carrière qui débute avec le splendide récit « Sans cœur », un cauchemar aux étranges échos kafkaïens, à une époque où dans les Caraïbes, peu de gens connaissaient l'œuvre de Kafka, et qui s'achève avec la prose grinçante, caustique, héritée de « Don Juan à la Havane ». Son inimité avec Lezama Lima fut légendaire. En 3 occasions, il provoqua en duel l'auteur de Paradisio. La première fois, en 1945, il imposa en tant que scène de l'événement une petite propriété qu'il possédait dans les environs de Pinar del Rio, et sur laquelle il écrivit de nombreuses pages où il exprimait sa joie profonde d'être propriétaire, terme qu'il finit par mettre ontologiquement sur le même plan que celui de destin. Lezama, évidemment, ne daigna pas se montrer. Pour la deuxième occasion, en 1954, le lieu choisi pour le duel fut la cour d'un bordel de la Havane, et l'arme, le sabre. Lezama, une fois de plus, ne se présenta pas. Le troisième et dernier défi eut lieu en 1963. Le lieu choisi fut le jardin à l'arrière de la maison du docteur Antonio Nualar, où se déroulait une fête à laquelle participaient des poètes et des peintres. Les armes choisies étaient les poings, comme dans les combats cubains traditionnels. Lezama, qui par hasard se trouvait dans la fête, parvint de nouveau à s'esquiver, aidé par Eliseo Diego et Cinto Vitier. Cette fois, les rodomontades de Pérez Masson se terminèrent mal. Au bout d'une demi-heure, la police intervint, et au terme d'une brève discussion, il fut arrêté. Dans le commissariat, les choses empirèrent. Selon la police, Pérez Masson donna un coup de poing dans l'œil d'un agent. Selon Pérez Masson, ce fut un piège habilement ourdi par Lezama et le castrisme, alliés contre nature qui avaient vu là l'occasion de le faire plonger. L'incident se solda par 15 jours de prison. Ce ne sera pas la dernière fois que Pérez Masson rendra visite aux geôles du régime. En 1965, il publie le roman « La soupe des pauvres ». Il raconte les souffrances d'une famille nombreuse de la Havane au cours des années 50. Le roman compte 15 chapitres. Le premier s'ouvre ainsi. « Vivement, la noire Petra ». Le deuxième, « Indépendante mais timide et indolente ». Le troisième, « Vaillamment, Juan ». Le quatrième, « Amoureuse, elle lui mit les bras autour du cou ». Le censeur méfiant dresse l'oreille rapidement. En prenant la première lettre de chaque chapitre, on compose un acrostiche. Viva Adolf Hitler. Le scandale est énorme. Pérez Masson se défend par le mépris. Il ne s'agit que d'une coïncidence. Les censeurs retroussent leurs manches. Nouvelle découverte. Les premières lettres de tous les deuxièmes paragraphes forment un autre acrostiche. Je chie sur ce pays. Et celle de tous les troisièmes paragraphes. Bienvenue les USA. Et celle de tous les quatrièmes paragraphes, merde à qui le lira. Et comme chaque chapitre se compose invariablement de 25 paragraphes, les censeurs et le public en général ne tardent pas à trouver 25 acrostiches. C'était une connerie, dira-t-il plus tard, ils étaient trop faciles à trouver. Mais si je les avais fait plus difficiles, personne ne s'en serait rendu compte. Il y gagne 3 ans de prison, lesquels sont ramenés à 2, ainsi que la publication en anglais et en français de ses premiers romans, Les Sorcières, un récit misogyne et empli d'histoires qui s'ouvrent sur d'autres histoires, qui à leur tour s'ouvrent sur d'autres histoires, et dont la structure ou l'absence de structure a un air de parenté avec certaines œuvres de Raymond Roussel. Ainsi que Le Génie des Masson, œuvre paradigmatique et paradoxale, dans laquelle on ne sait jamais si Pérez Masson parle du talent de ses ancêtres ou d'une sucrerie de la fin du XIXe siècle où se réunit une loge maçonnique qui projette la révolution cubaine et plus tard la révolution mondiale. roman qui a à l'époque reçu les éloges de Virgilio Pinera, qui vit en ce texte une version cubaine de Gargantua et Pantagruel. Et enfin, L'arbre des pendus, roman obscur d'un gothique caraïbe jusqu'alors inédit, où se dévoile sa phobie des communistes, des homosexuels, des juifs et des noirs, et lui valut l'inimité de Virgilio Pinera, qui cependant reconnut toujours l'inquiétante force, pareille à celle d'un caïman assoupi, de ce roman, peut-être le meilleur de tous ceux qu'a écrit Pérez Masson. Il travailla presque toute sa vie jusqu'à la victoire de la Révolution, comme professeur de littérature française dans une école supérieure de La Havane. Au cours des années 50, il essaya sans succès la culture de la cacahuète et de l'igname dans sa petite propriété déjà mentionnée de Pinar del Rio. Sur sa vie à La Havane, après sa sortie de prison, on raconte une infinité d'anecdotes, pour la plupart inventées. On dit qu'il fut indicateur de police, qu'il écrivit des discours et des harangues pour un célèbre homme politique du régime, qu'il fonda une secte secrète de poètes et assassins fascistes, qu'il se rendit chez tous les écrivains, peintres, musiciens, en leur demandant d'intercéder pour lui auprès des autorités. « Je ne veux que travailler, disait-il, rien que travailler, et vivre en faisant la seule chose que je sache faire, c'est-à-dire écrire. » Il sort de prison avec un roman achevé de 200 pages, qu'aucune maison d'édition cubaine n'ose publier. Le sujet porte sur les premières années d'alphabétisation, des années 60, et son exécution est impeccable. C'est en vain que les censeurs s'acharnent à chercher des messages cryptiques dans ces pages. Mais malgré tout, le roman ne trouve pas d'éditeur et Pérez Masson brûlera les trois seuls manuscrits existants. Des années plus tard, il écrira dans ses mémoires que le roman tout entier, de la première à la dernière page, était un manuel de cryptographie, la super énigma. Quoique bien sûr, il n'est plus le texte pour le prouver et son affirmation ne trouvera qu'incrédulité, si ce n'est l'indifférence dans les cercles d'exilés de Miami, qui lui reproche notamment ses premières et quelque peu hâtives hagiographies de Fidel et Raúl Castro, les voilà, de Camilo Cienfuego et de Che Guevara, à quoi Pérez Masson répondra par un curieux petit roman pornographique qu'il publiera sous le pseudonyme d'Abélard de Rotterdam, forcément anti-nord-américain, avec comme personnages principaux le général Eisenhower et le général Patton. En 70, toujours selon son journal, il se lance avec succès dans la fondation d'un groupe d'écrivains et artistes contre-révolutionnaires. Le groupe comprend le peintre Alcides Urrutia et le poète Juan José Lasa Mardones, dont personne ne sait rien et qui sont probablement des créations de Pérez Masson. En 75, après de nombreuses tentatives ratées, il réussit à quitter Cuba et s'installe à New York, où il se consacre, travaillant plus de 10 heures par jour, à l'écriture et à la polémique. Il meurt 5 ans plus tard. Le dictionnaire des auteurs cubains, curieusement, mentionne son nom. Voilà pour la petite histoire des infréquentables de la littérature, mes petits fripouillards. Alors hasta la victoria siempre et à la semaine prochaine.
Et donc c'était la dernière émission de notre thématique consacrée à la fin. La semaine prochaine, nous débutons une nouvelle thématique autour de l'homme qui essaie, qui tente de dépasser ses propres limites. Donc on vous annonce 3 émissions sur ce thème-là. Vous savez que vous pouvez nous écrire à l'adresse fabula.narratour@laposte.net et également visiter notre blog où vous retrouverez les émissions précédentes, le détail des lectures de nos différentes émissions, ainsi qu'évidemment vos chroniques, et parfois quand on a une rubrique anecdote, où là je pense peut-être Justin, ton texte, tu donneras la référence. Voilà, les références de nos lectures, l'adresse du blog, c'est fabulanarratourblog.wordpress.com. Voilà, cette semaine, nous étions avec Thibaut, Justin, Estelle, Victor et Nicolas. Et on vous retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires.
Bonne semaine.
Bonne semaine, à bientôt. Thank you.